Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour vous proposer un regard sur les grands moments de l'actualité de ces 7 derniers jours, avec bien sûr les reportages de la rédaction, à écouter aussi sur le site de la radio RFI.fr. Nous partirons pour la Corée, nous parlerons de la Syrie et du Yémen par exemple. Dans la seconde partie, après le flash, destination le continent africain, avec des escales au Burkina Faso notamment, rendez-vous bien sûr aussi avec vos messages. Et nous allons parler cette semaine d'un sujet grave dans cette émission avec notre invitée Justine Brabant, co-auteure d'une enquête sur les violences sexuelles en temps de guerre. Bonjour Justine Brabant.
Bonjour.
Vous étiez venue nous voir il y a quelque temps, il y a un an d'ailleurs. Vous aviez fait un livre, un travail, une enquête de terrain presque ethnologique sur les groupes armés en République démocratique du Congo. C'était il y a quelques mois donc. Et là, vous avez participé à une enquête sur un sujet ô combien douloureux. Un projet collectif, d'abord.
Oui, collectif, c'est effectivement un mot-clé pour parler de ce travail. On a été une dizaine de femmes journalistes françaises.
Il n'y a que des femmes.
Femmes, effectivement. Ouais. C'était voulu. À travailler sur les violences sexuelles en temps de guerre. Et vous avez prononcé un second mot qui était important après le mot collectif, qui était le mot enquête, puisque l'objet de ce travail, c'est bien d'enquêter, dans le sens où on a voulu réunir des témoignages de victimes, de survivants de violences sexuelles, mais également enquêter, c'est-à-dire trouver des preuves, désigner quand c'était possible des responsabilités, produire du matériel.
Oui, c'est un travail extrêmement précis.
Voilà, pour questionner la question de l'impunité.
Oui, c'est un travail très, très précis, qui s'inscrit dans une démarche globale, d'ailleurs.
Oui, en fait, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est un des aspects de ce travail. Mais il y a eu précédemment des publications dans la presse, sur Mediapart, liées à ce travail d'enquête.
Dont votre travail, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc moi,
Laïla Minano.
Exactement, je consacre avec Laïla Minano un chapitre de ce livre à l'opération Sangaris et aux accusations de viol concernant les militaires français en République centrafricaine. Mais au-delà de ce livre, il va y avoir également un film d'animation qui va paraître au début de l'année 2018 et qui posera toujours cette même question de l'impunité des auteurs de violences sexuelles en temps de guerre.
Et que chacun pourra voir
Chacun pourra voir, qui en principe sera distribué soit en salle, soit via des réseaux de type Netflix.
Alors, première phrase du livre, on comprend pourquoi, est celle-ci. N'espérez pas qu'impunité zéro, c'est le titre de ce livre, Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre, c'est une enquête. N'espérez pas qu'impunité zéro soit une lecture agréable.
Mmh.
Il est vrai qu'après le livre, soit on va faire un jogging, on va voir un bon film, ou on fait quelque chose, mais il faut se changer les idées. Tellement le sujet, et particulièrement dans votre enquête, le sujet non seulement est grave, mais argumenté.
Oui. Ben en fait, on s'est dit qu'on allait de toute façon devoir rapporter des choses terribles, des faits terribles. Et puis au-delà des faits qui eux-mêmes sont terribles, il y a un petit peu ensuite un deuxième effet qui est celui de s'apercevoir que ces crimes restent impunis, et on explique pourquoi, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Donc effectivement, ça peut être une lecture un peu difficile. On explique aussi pourquoi elle est nécessaire. On essaie d'expliquer au lecteur pourquoi on va lui raconter ces épisodes qui pour certains sont très crus et très cruels, pourquoi c'est nécessaire. Moi, je suis pas pour, dans la vie en général, en tant que journaliste, balancer à la figure des lecteurs ou d'auditeurs des choses terribles pour le principe. Mais pour moi, il faut accepter, il faut pas non plus faire un principe de ne jamais les raconter.
Bien sûr.
Et il faut les raconter pour vu que ça s'inscrit dans un propos, dans une démonstration, et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Est-ce qu'il ressort du livre, c'est d'abord cette notion justement d'impunité.
Oui.
Quelles que soient les régions du monde que vous traitez, on va y revenir, c'est ce mot impunité qui ressort.
Oui, c'est absolument central pour nous. On montre à la fois la diversité des cas de viol et de violence sexuelle, puisque c'est vrai que sur tous les terrains sur lesquels on a travaillé, c'est-à-dire la Syrie, l'Ukraine, la République centrafricaine, l'armée américaine dans les camps et les prisons de Guantanamo, d'Abu Ghraib, la Cour pénale internationale et les missions de maintien de la paix des Nations Unies, les faits qu'on reproche à ces hommes en armes et à ces institutions qui ont couvert ces hommes en armes sont assez différents, même s'il y a toujours un contexte commun qui est celui de la guerre. Mais ensuite, ce qui est absolument frappant, ce sont les mécanismes qui sont très très similaires, malgré des diversités géographiques comme ça, d'impunité. Et toutes ces raisons pour lesquelles et ces mécanismes par lesquels des coupables ne vont probablement jamais se retrouver devant des tribunaux.
Impunité et sous-estimation aussi, parce que le premier réflexe de ceux qui sont mis en cause ou de ceux qui entourent ceux qui sont mis en cause, c'est de dire « Oh ben non, vous exagérez, c'est pas ça, ça s'est pas passé comme ça ».
Oui, c'est...
Ou alors cette femme était consentante ou...
C'est assez frappant aussi. Alors il faut s'interroger sur pourquoi c'est souvent notre premier réflexe quand on nous rapporte des cas comme ça, le doute. C'est ce qu'on essaye de faire aussi en filigrane. Et puis on essaye d'y répondre encore une fois en apportant le plus d'éléments matériels possible, le plus de preuves possibles pour que peut-être à l'avenir, quand des personnes ou des auditeurs auront vent de nouvelles accusations, ils comprennent que la plupart du temps, ce n'est pas la femme qui avait une jupe trop courte ou peut-être avait des raisons de mentir. La plupart du temps, c'est effectivement qu'elle a été victime de ce type de crime.
Justine, commençons par une image forte de la semaine, celle du suicide en direct au tribunal pénal international sur la Bosnie, à La Haye, d'un accusé croate de Bosnie, justement, Slobodan Praljak, qui, après avoir appris qu'il était condamné à 20 ans de prison, a dit qu'il n'était pas un criminel et a bu le contenu d'une fiole avant de s'écrouler. Correspondance régionale de Pierre Benazet.
Ancien directeur de théâtre, Slobodan Praljak avait formé en 1991 un bataillon d'artistes croates pour résister à l'offensive de l'armée yougoslave. Promu ensuite général dans les rangs de l'armée croate en Bosnie, il avait été en particulier affecté à Mostar, chef-lieu de l'Herzégovine. C'est au cours de cette affectation qu'il a commis les actes pour lesquels le TPI l'a condamné en appel ce jeudi. Lui sont à la fois imputés des crimes de guerre et crimes contre l'humanité envers les civils bosniaques, mais aussi les destructions comme le Stari Most, le vieux pont, ce monument ottoman du XVIe siècle qui a donné son nom à Mostar. Son suicide coup de théâtre pour le dernier jugement en appel du TPI montre que les procédures de sécurité du tribunal laissent toujours à désirer. D'abord, il n'y a plus depuis des années de garde juste derrière les accusés qui auraient pu intervenir. Ensuite, les contrôles semblent toujours aussi insuffisants, ce qui rappelle la mort de Slobodan Milošević. On avait retrouvé dans sa cellule de nombreux médicaments entrés subrepticement dans la prison et les rumeurs d'empoisonnement avaient couru longtemps avant d'être entièrement réfutées.
Rendons-nous maintenant dans la péninsule coréenne après le tir mardi par la Corée du Nord d'un missile intercontinental, encore le lancement d'un missile. Rejoignons Frédéric Ojardias à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.
Dans une déclaration triomphante, la Corée du Nord affirme que son nouveau missile, baptisé Hwasong-15, est capable d'atteindre tout le territoire américain. C'est en effet le premier missile nord-coréen à voler à une telle altitude, 4500 km. Sa trajectoire était très verticale pour éviter de survoler le Japon et selon les premières estimations, si l'engin avait été tiré à un angle normal, sa portée serait de 13 000 km, ce qui est suffisant pour atteindre Washington. Cet essai a été qualifié de provocation téméraire par le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a promis de poursuivre sa politique de sanctions, mais qui a aussi déclaré qu'il fallait empêcher les États-Unis d'envisager une frappe préemptive en Corée du Nord. À Séoul, les bruits de bottes en provenance de Washington inquiètent en effet autant que les coups d'éclat de Pyongyang. Ce matin, Donald Trump a d'ailleurs appelé le premier ministre japonais avant de téléphoner à Moon Jae-in, et les Sud-Coréens craignent que leur position ne soit négligée alors qu'ils seront les premières victimes en cas de conflit sur la péninsule.
Justine, avant de vous retrouver, parlons de la Syrie et du début des négociations de Genève sur ce pays sous l'égide de l'ONU. Elles ont repris mercredi sans enthousiasme aucun du côté de Damas. Explication jeudi de Paul Khalife à Beyrouth.
Officiellement, la délégation gouvernementale syrienne s'est fait attendre pendant deux jours pour protester contre la demande du départ du président Bachar al-Assad au début de la transition politique formulée par l'opposition. Mais en différant l'arrivée de ses représentants, Damas cherche surtout à imposer son rythme avec le soutien discret de son allié, la Russie. La Russie qui a une nouvelle fois montré qu'elle menait la danse sur le terrain en obtenant un cessez-le-feu dans la route orientale de Damas, une des quatre zones de désescalade imposées par Moscou avec le soutien de l'Iran et de la Turquie. L'autre objectif de l'atermoiement de la Syrie et d'empêcher la conférence de Genève d'enregistrer des progrès tangibles dans la recherche d'une solution politique. Ce processus est le seul cadre agréé par Paris et Washington. Or, la Russie veut organiser avec l'appui de Téhéran et d'Ankara sa propre conférence intersyrienne à Sotchi, où seront débattus les mêmes thèmes qu'à Genève. L'élaboration d'une nouvelle constitution, l'organisation d'élections et la formation d'un gouvernement regroupant des représentants de l'opposition et du régime. Moscou et Damas sont donc à la manœuvre pour cueillir sur le plan politique les fruits de leur victoire militaire face au groupe État islamique.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Justine Brabant. Nous allons parler de la Syrie dans un instant, Justine. Mais je voudrais qu'on dise un mot sur la Bosnie, sur le tribunal pénal sur l'ex-Yougoslavie.
Oui, parce qu'effectivement, s'agissant de violences sexuelles et de viols en temps de guerre, cette zone géographique-là, elle est importante également, parce que c'est au sein de ce tribunal, de cette juridiction spéciale, que pour la première fois, le viol a été considéré comme un crime contre l'humanité. Et à l'époque, c'était deux jeunes militaires serbes qui avaient été accusés et jugés pour ces raisons-là.
Alors, la Syrie, qui est un des dossiers que vous traitez dans cette enquête intitulée Impunité zéro sur ces violences sexuelles en temps de guerre, la Syrie est de façon assez cynique, un cas d'école.
Oui, effectivement. Alors là, on parle aujourd'hui de négociations pour obtenir la paix. Nous, la question qu'on pose, c'est aussi celle de la justice dans ce livre. Et effectivement, c'est un cas d'école, puisque dans une sortie de guerre, on cherche souvent à obtenir et le cessez-le-feu. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait de la question de la justice? Est-ce que le cessez-le-feu va pas amener à ne pas revenir sur les crimes qui ont été commis, auxquels on s'intéresse précisément dans ce livre?
Les trois journalistes qui ont mené l'enquête sur la Syrie intitulent leur contribution « Le viol des enfants, l'arme secrète de la répression de la révolution syrienne ».
Oui, en fait, ils enquêtent pour la première fois de manière extrêmement détaillée et à la fois du point de vue des victimes et des bourreaux sur la question du viol des enfants. Ce viol des enfants, on l'a vu apparaître un petit peu de manière en filigrane dans des rapports d'ONG spécialisés sur les droits des enfants et de rapports des Nations Unies. Mais pour la première fois, ils ont à la fois, donc c'est Cécile Androgeski, Leila Minano et Daram Al-Assad, ils ont pour la première fois pu interroger des enfants qui avaient été retenus notamment dans des prisons, des renseignements militaires à Alep. Ils ont le cas d'une petite fille, Nora, qui a vraisemblablement été violée après avoir eu des injections d'hormones dans cet endroit-là au tout début de la révolution en 2011. Et puis, ils interrogent également, et c'est la première fois, des bourreaux, il faut les appeler comme ça, puisque ce sont d'anciens dignitaires du régime syrien qui sont aujourd'hui déserteurs, réfugiés en Turquie, qui pour la première fois expliquent ce qui s'est passé dans ces prisons et dans ces camps de détention.
Alors, il faut noter que la Cour pénale internationale est saisie de ces exactions, en tout cas mène une enquête. Le problème, rappelez-vous, c'est que la Syrie n'a pas ratifié les statuts de la CPI.
C'est ça, la Syrie n'a pas ratifié les statuts de la CPI et l'ONU peine à se saisir de cette institution, puisque la Russie, dont on parlait il y a quelques instants, y met quasi systématiquement son veto.
Ouais. Et il faut aussi préciser que il y a certes depuis 2011 cette guerre en Syrie, mais que les violences sexuelles ont existé avant en Syrie, sous le régime syrien. C'est ce que vous dites aussi dans le livre.
Oui, tout à
livre,
fait, parce qu'il faut faire un travail historique. Alors, c'est toujours compliqué de manier la question de mais les violences existaient avant, les violences sexuelles existaient avant la guerre, parce que parfois, on retombe sur un discours que, à titre personnel, j'apprécie pas et qui est faux dans les faits, qui est les violences sexuelles et les viols, c'est dans l'ADN des conflits. Ça a toujours existé dans les guerres. Ce qui, à la fois, rejoint des vraies choses historiques, ça
c'est pas tout à fait faux.
Dans beaucoup de conflits, mais en même temps, dire ça, c'est refuser d'estimer qu'on peut avoir la main sur comment se comportent des soldats, et c'est refuser de penser qu'on puisse imaginer un jour, alors peut-être pas pour l'instant ne plus faire la guerre, mais faire la guerre sans commettre des viols.
Imaginez qu'il n'y a pas de fatalité en quelque sorte.
C'est ça.
Jours dans le monde.
Justine Brabant, il nous faut parler du Yémen. Maintenant, il vous faut savoir qu'une ONG basée à Londres a déposé une plainte pour crime de guerre devant la CPI, qui est au cœur de notre émission aujourd'hui. Elle vise les Émirats Arabes Unis, qui avec l'Arabie Saoudite soutiennent, on le sait, les forces gouvernementales en guerre contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Alors rappelons que ce conflit a fait à ce jour quelques 8000 morts et plus de 44 000 blessés. D'autre part, dimanche dernier, un navire chargé de blé a pu accoster dans le pays. C'est une première à Amman, Jérôme Borusewski.
Près de 2 millions de doses de vaccins, plus de 5 tonnes de farine. Ces deux derniers jours, l'aide humanitaire a pu à nouveau franchir les frontières du Yémen, y compris jusqu'à la capitale Sana'a et le port d'Oudeïda, deux villes contrôlées par les rebelles houthis. C'est un petit pas en avant et cela ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel, prévient immédiatement l'UNICEF, car plusieurs organisations attendent encore les autorisations pour faire entrer dans le port d'Hudaïda des bateaux chargés d'aide humanitaire. Les Yéménites ont besoin de rations alimentaires, de médicaments, de carburant, de comprimés pour purifier l'eau, car les épidémies menacent, le choléra, mais aussi la diphtérie, notamment dans le gouvernorat d'Ibe, au sud de la capitale. 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition au Yémen, pays où le niveau de malnutrition est le plus élevé au monde, d'après l'UNICEF. Le blocus aérien et maritime avait été imposé il y a 3 semaines par la coalition sous commandement saoudien. Elle avait accusé les rebelles houthis soutenus par l'Iran d'avoir tiré un missile balistique en direction de la capitale saoudienne.
Revenons en Europe maintenant avec un couac qui a permis l'autorisation du glyphosate pour 5 nouvelles années en Europe. En effet, le gouvernement allemand a voté oui alors qu'une abstention était prévue. Ceci dans un contexte politique tendu, on le sait, à Berlin, d'où nous a appelé mardi Pascal Thibault.
Cela n'était pas conforme à la ligne de conduite que nous avions fixée. Angela Merkel a ce mardi rappelé à l'ordre son ministre de l'Agriculture, le conservateur bavarois Christian Schmidt. Ce dernier avait lundi à Bruxelles voté en faveur de la réautorisation de l'herbicide glyphosate, alors que sa collègue en charge de l'environnement, la social-démocrate Barbara Hendricks, lui avait rappelé juste avant son opposition à une telle mesure. Dans un gouvernement de coalition, l'abstention est de rigueur en Allemagne lorsque les deux partenaires ne parviennent pas à un accord sur un dossier. Le ministre de l'Agriculture conservateur a déclaré avoir fait cavalier seul, une décision qui a provoqué la colère des sociaux-démocrates qui gèrent toujours les affaires courantes depuis les élections du 24 septembre dans un gouvernement les associant aux conservateurs d'Angela Merkel. La décision solitaire du bavarois Schmitt à Bruxelles, qui a fait basculer la décision en faveur du glyphosate, empoisonne les relations entre sociaux et chrétiens-démocrates, alors qu'une nouvelle grande coalition pourrait à nouveau diriger l'Allemagne. Angela Merkel se serait bien passée de cet incident de parcours, d'où son rappel à l'ordre adressé au ministre rebelle, sans pour autant le remercier, ce que réclamaient certains à gauche.
Une semaine d'actualité continue. Avant de clore cette première partie, Justine, j'aimerais que vous nous parliez en quelques mots de l'enquête que vous avez menée en Ukraine, où là encore, il y a des cas de violences sexuelles et des cas aussi d'impunité.
Oui, une enquête qui a été menée par une collègue qui s'appelle Ilione Schulz avec Marie-Alix Détry. Donc là encore, l'enjeu était à la fois de documenter pour la première fois les cas de violences sexuelles, parce que c'est un conflit très récent et que on le voit bien avec d'autres exemples historiques. Les troupes alliées pendant la libération européenne dans la Seconde Guerre mondiale, on a mis des dizaines d'années à savoir ce qui s'était réellement passé, y compris les viols. Donc là, on travaille sur une sorte d'histoire immédiate. Donc ça consiste d'abord à récolter ces témoignages et puis dans le cas de l'Ukraine se pose une question particulière qui est celle de comment on obtient justice dans un cadre d'une justice des vainqueurs, en quelque sorte, puisque lorsque des tribunaux se sont saisis de ces affaires jusqu'à présent, souvent le caractère de héros national des agresseurs a été soulevé, a été retenu comme une circonstance atténuante des crimes qu'ils avaient pu commettre. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Ukraine, qui se répète dans beaucoup de conflits et qui fait la singularité des violences sexuelles en temps de guerre. C'est-à-dire qu'on a affaire à des juridictions et à des victimes qui se retrouvent dans des juridictions face à des gens qui hier étaient leurs agresseurs, étaient des hommes en armes, et le lendemain se retrouvent face à des gens qui soit ont le statut de héros de guerre ou soit ont accédé à de hautes fonctions depuis. Certains sont devenus ministres, d'autres sont devenus colonels. Donc qu'est-ce que c'est de porter cette parole face à ces gens-là aujourd'hui?
C'est un véritable défi qui se pose à ce moment-là, parce que là c'est plus l'impunité, c'est toute l'histoire d'un pays qui obstrue en quelque sorte l'enquête, qui empêche l'enquête.
Tout à fait, c'est comment un pays de toute façon se reconstruit après un tel conflit, c'est assez vertigineux comme question. Alors comment on trouve sa place à soi en tant que victime dans ce nouveau récit en train de s'écrire. Ça fait que, notamment une des conséquences de ça, c'est que parmi les victimes qu'on a interrogées, beaucoup n'ont pas du tout d'espoir dans la justice de leur pays et essaient en ce moment de se saisir de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour juger leur cas, plutôt qu'une justice nationale qui reste prise dans ces problématiques.
Et on parlera tout à l'heure notamment de la difficulté de recueillir justement ces témoignages si difficiles. Justine Brabant, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures et on se retrouve dans quelques 3 minutes. A tout de suite.
A tout de suite.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre les grands moments de l'actualité de la semaine avec les reportages de la rédaction et notre invitée, Justine Brabant, co-auteure avec Leïla Minano et Anne-Laure Pinault, d'une enquête intitulée « Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre », un livre publié chez Autrement.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons tout de suite partir pour l'Afrique, Justine, mais pour parler de la grève dans les lycées français à l'étranger, sur le continent notamment, cette semaine. Écoutez par exemple ce reportage de notre correspondant à Dakar, Guillaume Thibault.
L'école va devenir plus chère,
augmenter les prix.
Et nous, on ne veut pas payer.
AEFE, alerte enlèvement, fini les enseignants. La banderole tendue sur les grilles du lycée Mermoz annonce cette mobilisation. Pour Camille, enseignante, ces coupes budgétaires de l'État français sont un coup de poignard.
On nous a planté un couteau dans le dos, ils ont pris des décisions, ils vont les appliquer, et puis basta, c'est fait, vous acceptez. Eh ben non, on ne l'acceptera pas.
Devant un écriteau, lycée bradé, jeunesse sacrifiée, Émilie Rubris, représentante des parents d'élèves, s'indigne d'une chose, la baisse du budget demandé par le ministère des Affaires étrangères, ministère de tutelle, va entraîner une hausse des frais, déjà très élevée, de scolarité.
Lorsqu'on prend des mesures à l'AFE qui entraînent des augmentations de frais de scolarité, ça ne peut que mettre à mal les familles qui supportent déjà à plus de 80% des frais de scolarité de leurs enfants.
Marius, 16 ans, en première littéraire et visiblement militant, reproche au gouvernement français de privatiser l'enseignement.
On a besoin de garder les libertés qu'on a et nos acquis et... Tout ce qui concerne cette grève, c'est assez, je disais, une façon de privatiser et surtout de faire bénéficier uniquement l'une élite. C'est pas normal, il faudrait que tout le monde fasse le même pied d'égalité et ça ne soit pas à cause de l'argent, justement.
Prêt à aller au bras de fer avec les autorités françaises, les syndicats à l'origine de cette grève annoncent déjà être prêts à mener de nouvelles actions.
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Là, nous entrons dans le continent que nous n'allons pas quitter jusqu'à la fin de ce deuxième volet d'une semaine d'actualité. Justine Brabant, il nous faut parler dans cette enquête que vous consacrez à ces violences sexuelles en temps de guerre. Il nous faut parler de l'opération Sangaris qui est mise en cause. En tout cas, certains des soldats de l'opération Sangaris ont été mis en cause. Il faut rappeler que Sangaris, c'était une opération française qui a duré, qui s'est étalée de 2013 à la fin de l'année dernière, 2016, qui a compté jusqu'à 2000 soldats. Et des plaintes ont été prononcées, ouvertes, et un non-lieu a été requis par la justice française. Il faudrait que vous nous rappeliez un petit peu tout ça.
Oui, il y a eu en fait, dans ce qu'on appelle le dossier Sangaris, plusieurs vagues d'accusations. Oui. Les faits qui sont concernés datent pour certains du tout début de l'opération. Dès que les Français arrivent quasiment et qu'ils se mettent, notamment autour de cet aéroport de Mpoko, où il y avait un très grand camp de réfugiés, dès ce moment-là, des enfants accusent des militaires d'avoir commis des viols et des violences sexuelles. Aujourd'hui, devant la justice française, il y a trois dossiers. Il y en a un qui est celui dont on a le plus entendu parler, qui concerne ces enfants d'une dizaine d'années qui décrivent des faits qui, la plupart du temps, relèvent de l'échange de fellations contre des rations de nourriture ou de toutes petites sommes d'argent. Ça, c'est un premier dossier qu'on appelle le dossier des enfants réfugiés de Mpoko. Dans ce dossier, un non-lieu a été requis. Et ça fait partie...
Requis par
le procureur, oui. Ça veut dire qu'il n'a pas été prononcé. Mais dans la mesure où il n'y a pas une mise en examen de militaires, on peut imaginer que les juges vont aller dans ce sens. Et on a voulu, c'est un des dossiers sur lesquels on a le plus travaillé dans ce livre, parce qu'on a essayé de comprendre comment on pouvait aboutir après quasiment 2 ans d'enquête à même pas un procès, à vrai dire. Donc il y a ce dossier principal, et puis après il y a aussi un dossier qui a déjà été classé sans suite, qui concerne une jeune fille qui était mineure au moment des faits, qui a eu un enfant avec un soldat de Sangaris, qui a été classé sans suite, et là on questionne aussi le mode d'enquête des Français, puisqu'il n'y a même pas eu de prélèvement ADN, alors que pour une fois, il pourrait y avoir, si on peut dire avec mille guillemets, une trace d'une violence sexuelle. Donc ils n'ont pas souhaité investiguer plus que ça, enquêter plus que ça sur le cas de cet enfant. Et puis enfin, il y a un troisième dossier qui s'appelle le dossier d'Ekoa, qui concerne là une région qui est au nord de Bangui, où il y a des centaines d'accusations de femmes sur différents soldats, dont quelques-unes concernent des Français et d'autres concernent d'autres contingents, notamment des contingents africains.
Et toutes ces plaintes, toutes ces affaires concernent combien de soldats français à peu près?
Alors c'est très difficile à dire, on n'arrive même pas à dénombrer les victimes à vrai dire. Nous, on a posé cette question toute simple à la procureure qui s'occupe de ces cas à Paris, on lui a demandé combien de victimes présumées aujourd'hui vous avez sur votre bureau, elle n'a pas souhaité nous répondre, elle nous a dit qu'elle souhaitait s'exprimer plutôt en cas avéré qu'en nombre de plaintes, voilà. Ce qui est en filigrane, c'est encore une fois le soupçon, le doute qu'il y ait eu de fausses victimes entre guillemets dans le tas, donc on ne sait même pas dénombrer le nombre de victimes, alors le nombre de personnes qui auraient commis, c'est encore plus compliqué. on a quelques indicateurs sur les victimes. Les avocats des parties civiles estiment qu'au global, on peut compter une quarantaine d'enfants qui, juste à Bangui, ont témoigné d'agressions et de viols par des militaires français. Parfois, ils décrivent une même personne, parfois, ils décrivent des personnes différentes, donc ça peut être un premier indicateur. Après, bien sûr, il s'agit... on n'est pas en train de dire que, comme en Yougoslavie à l'époque, ou comme au Rwanda à l'époque, c'est une politique de l'armée française de violer, ou ce sont des consignes bien données sûr, à ses soldats. Bien sûr, on ne dit pas ça. On dit qu'il s'agit de quelques cas, mais on essaye de comprendre pourquoi ces quelques cas, un, se sont produits, et deux, n'ont pas été jugés. Et
est-ce qu'il y a eu de véritables enquêtes, d'ailleurs, Julie ? Est-ce que l'armée, d'abord, a enquêté en son sein ?
Oui, l'armée ouvre dans ce genre de cas des enquêtes internes. C'est bien entendu extrêmement difficile de savoir à quoi elles aboutissent, ces enquêtes internes. Donc nous, on s'est concentré sur l'aspect judiciaire, puisque au-delà un militaire qui commet ça, au-delà de la sanction disciplinaire, il encourt une sanction face à la justice dite civile, et il peut être jugé devant une cour d'assises ou un tribunal de grande instance. Donc nous, on s'est concentré sur cette enquête-là, et on a cherché à comprendre ce qu'avaient fait les enquêteurs, tout simplement, pendant ces mois et ces années. Alors, la première chose qu'on a constaté, c'est...
Y compris sur le terrain, d'ailleurs, à commencer par les...
Et surtout sur le terrain. Ouais. Voilà, moi, je suis partie en Centrafrique quelques temps, et puis j'ai un peu suivi leurs traces de ces fameux gendarmes qui ont mené l'enquête, et je suis allée voir les gens qu'ils avaient interrogés, j'ai regardé éventuellement les procès-verbaux qu'ils avaient rédigés. Voilà, j'ai enquêté sur les enquêteurs avec Leila Mignano. Ce qui ressort de ça, il y a beaucoup de choses, mais concernant le dossier Mpoko, c'est d'abord la manière dont ces enfants qui ont porté ces accusations ont été eux-mêmes traités en accusés tout au long de ce dossier. Le dossier sur Mpoko, c'est plusieurs milliers de pages, donc il faut bien entendu le défricher. Mais au fil des auditions, se dessine un peu un ton général qui est celui d'enfants qui sont mis en position d'accusé. Un petit exemple, ces enfants, il faut savoir qu'ils ont été entendus pour certains plusieurs fois, qu'ils sont très jeunes, qu'ils ne parlent pas forcément très bien français, et qu'ils témoignent parfois des années après les faits. Donc bien sûr, leurs conditions d'audition sont particulières. Et pourtant, dans ce contexte, vous avez des gendarmes qui vous disent « le témoignage de cet enfant me paraît, il ne faut pas en tenir compte a priori, puisque les lieux qu'il décrit sont inexacts ». Si on regarde dans le détail de l'audition et du dossier, qu'est-ce qui est inexact ? C'est qu'un enfant a décrit... le fait qu'un militaire lui aurait demandé une fellation sur un camp militaire français. Il décrit effectivement le garage de mécanique où ça aurait pris place, de manière quasiment exacte, à un détail près, donc plusieurs objets, leur disposition à un détail près, c'est que certains objets qu'il décrit ne se trouvent pas dans une seule et même pièce, mais dans deux pièces séparées. Et sur cette base-là, un gendarme français va dire ça semble être incohérent, témoignage à prendre avec des pincettes. Voilà, ça c'est un exemple, mais vous en avez des dizaines tout au fil du dossier qui toujours donnent cette impression-là.
Et c'est pour ça que je posais la question dans la première partie, et on va peut-être y répondre, vous allez nous y répondre maintenant, c'est comment recueillir des témoignages fiables ?
C'est extrêmement compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons qui tiennent aux violences sexuelles tout court. C'est-à-dire que même sans être en zone de guerre, pour avoir par exemple des preuves médicales concernant un viol, il faut que la victime soit auscultée par un médecin dans les 48 heures. Généralement, on dit qu'au-delà de 48 heures, les traces disparaissent. Donc déjà, en temps normal, c'est compliqué parce que ces victimes, déjà, il faut qu'elles réagissent immédiatement, qu'elles se rendent compte de ce qui s'est passé pour elles, qu'elles peuvent porter plainte, etc. Donc c'est déjà compliqué en temps normal. Dans un contexte de guerre, non seulement vous avez des populations qui sont pas toujours informées de leurs droits, qui savent pas qu'elles ont le droit de porter plainte contre des militaires français, qui, si elles en sont informées, n'ont pas forcément les moyens d'aller, parfois même juste de payer le transport jusqu'à l'endroit où elles pourraient le faire, a fortiori de se payer un avocat. Et puis, quand bien même elles décideraient de le faire, elles sont aussi souvent déplacées de guerre, et où, même si ça arrive jusqu'à la justice française, on l'a dit, enquête, a des moyens pour enquêter qui sont discutables, des moyens et des procédés qui sont discutables. Alors bon, nous, on a cherché à interroger des victimes. Bien sûr, on fait très attention dans ce genre de cas, aussi en tant que journaliste. Il ne s'agit pas que des méthodes de travail des enquêteurs. Il s'agit d'essayer à la fois de recueillir des faits suffisamment précis, mais sans, s'agissant d'enfants, réactiver un possible trauma. Donc, bien sûr, on prend beaucoup de précautions, et puis on en discute entre nous, entre journalistes, et certaines journalistes dans l'équipe étaient habituées aussi, si on peut dire, malheureusement, à travailler sur ce type de cas. Donc, il y a des méthodes très particulières pour interroger ces personnes.
Et est-ce que la justice civile a mené une enquête, véritablement, aussi ?
Bah donc la justice civile, c'est le cas un peu que je vous décrivais de ces gendarmes prévôtaux, puisqu'en fait
qui ont été envoyés
l'enquête a conclu qu'il n'y avait pas des preuves suffisamment étayées, mais sur la base d'appréciation dont je vous expliquais tout à l'heure qu'elle pouvait sembler un petit peu biaisée.
Donc, non-lieu requis, on sait à quel moment une décision sera prise.
Non, on ne sait pas pour le moment.
Justine, nous allons continuer notre voyage africain. Je rappelle que vous avez écrit Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre. Et nous allons continuer évidemment aussi à en parler. Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire à unesemaine.actu@rfi.fr ou sur la page Facebook intitulée Une semaine d'actu. Bonjour aujourd'hui à Betao et Réveillon qui nous écoutent à Kinshasa, à Jonas à Lubumbashi en RDC et également. Bonjour à Yannick à Douala au Cameroun, à Wan à Conakry, Mamadou à Labé. Je salue également Delvi Plus à Pointe-Noire au Gabon, Raymond à Accra au Ghana et Jules qui est comptable à Lomé.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Restons en Afrique, Justine Brabant, un continent que vous connaissez bien. Je rappelle que vous avez travaillé, vous avez effectué une enquête sur les groupes armés en République démocratique du Congo. Vous en aviez parlé ici même. Nous allons revenir maintenant sur la visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, aux premières étapes d'un voyage africain qui l'a conduit ensuite en Côte d'Ivoire et au Ghana. Vous avez pu suivre cette tournée sur RFI avec nos envoyés spéciaux et sur le site RFI.fr également. Le président français était l'invité aussi de notre chaîne et de France 24 mercredi. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine, a dit Emmanuel Macron dans un discours, et il a répondu aussi aux questions d'étudiants à l'université Ouaga 1 mardi. Une nouveauté, une rupture aussi, du moins sur la forme. Envoyé spécial Christophe Boisouvier.
Sur la forme, oui, ce discours a été incontestablement une rupture. Jamais avant Emmanuel Macron, un président français n'avait pris le risque de parler devant quelques 800 étudiants africains et de répondre à des questions qui n'étaient pas filtrées. La preuve, ces mots incisifs contre les troupes françaises au Sahel ou contre le franc CFA. Sur le fond, ça se discute. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a rendu hommage à son prédécesseur François Hollande qui a envoyé des troupes au Mali. Il s'est donc placé dans la continuité. Sur le plan politique, il a salué la jeune démocratie burkinabé qui a gagné un combat pour la démocratie, a-t-il précisé. Il a dénoncé ceux qui pensent qu'on peut avoir le même pouvoir pendant des décennies, mais il n'est pas allé plus loin. Je ne veux pas donner de leçons, a-t-il précisé. Finalement, c'est peut-être sur les terrains économiques et sociétal qu'Emmanuel Macron a vraiment montré sa différence. Plus d'entrepreneuriat, plus de mobilité avec ce visa de circulation de longue durée pour les Africains diplômés en France, plus de volonté aussi de lutter contre l'impunité avec cette promesse qu'il fera tout pour faciliter l'extradition au Burkina Faso de François Compaoré. Il n'y a plus de politique africaine de la France, a clamé Emmanuel Macron. Peut-être, répond l'opposant burkinabé Ablassé Ouédraogo, mais il reste une politique de la France pour l'Afrique.
Emmanuel Macron a aussi annoncé la déclassification des archives françaises concernant Thomas Sankara. Vous pourrez retrouver ce discours sur notre site rfi.fr. Et il a été question aussi du sort réservé aux migrants africains en Libye. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron en réponse à une question d'un de ses étudiants sur les trafiquants et l'esclavage.
Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami! Ce sont des Africains, donc il faut qu'on prenne nos responsabilités tous, on a commencé à le faire, pour les démanteler. Mais arrêtez dans ce discours aussi, qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Présentez-moi un passeur français, belge, allemand ou que sais-je, qui est en train d'opérer entre le Niger et la Libye. Il n'existe pas. Donc il y a aujourd'hui, en Afrique, des Africains qui esclavagisent d'autres Africains. C'est ça la réalité. Et il y a des Européens qui bénéficient de cette route de la misère en Europe. Et c'est inacceptable. Dans les deux cas, ce sont des crimes. Dans les deux cas, nous les combattons avec vigueur. Mais il ne faut pas faire de leçons de morale. Moi, je ne sous-traite ça à personne. Mais je prends toutes mes responsabilités. Et tous ces sujets ne seront réglés par aucun propos de salle ou aucun propos simpliste. Ici, nous nous engageons, mais pas parce que nous nous désengageons de la Libye. Parce que d'où partent celles et ceux qui vont vers la Libye? D'ici, de la région. Donc il faut une politique de développement, c'est l'Alliance pour le Sahel. Il faut une politique pour éradiquer ces trafiquants, c'est le G5 Sahel avec la force Barkhane.
Emmanuel Macron devant un étudiant africain, c'était mardi à Ouagadougou. Alors de l'immigration, il a aussi été beaucoup question lors du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan. Envoyé spécial Laurent Corot, mercredi.
Ce devait être l'un des thèmes de huis clos, un thème parmi d'autres. Le dossier de la migration en est finalement venu à occuper une place centrale dans le 5e sommet Europe-Afrique. Dès la cérémonie d'ouverture, les dirigeants ont les uns après les autres condamné ce qui se passe en Libye. L'actualité nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable, a indiqué aux 83 délégations l'hôte du sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara. Les récents reportages sur la façon dont les Africains, particulièrement les jeunes, sont traités par les passeurs et les trafiquants sont horrifiants, a estimé le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk. Jusqu'à quand, a lancé pour sa part le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, jusqu'à quand allons-nous, vous et nous, observer cette tragédie insensible, impuissant, inactif, paralysé? Dans la soirée, une réunion a été organisée afin d'accélérer la lutte de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU contre les réseaux criminels qui exploitent les migrants. Elle a convenu de la mise en place d'une task force pour lutter contre ces passeurs.
Alors l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ont indiqué ces derniers jours vouloir vider les centres de détention en Libye. De quel centre s'agit-il exactement? Les explications d'Ouda Ibrahim.
Il s'agit a priori de 30 centres de rétention gérés par des milices loyales au gouvernement d'Union nationale. Ces centres sont situés dans et aux alentours de Tripoli et détiennent près de 20 000 migrants en tout. Pour la plupart, ils ont été interceptés en mer par les gardes-côtes libyens ou découverts en octobre dernier dans des centres non officiels à Sabratha. Cependant, ce chiffre de 20 000 détenus paraît dérisoire au regard du chiffre réel d'Africains qui se trouveraient en Libye actuellement, car la majorité des lieux de détention à l'ouest du pays demeurent secrets et sont tenus par différentes milices. C'est dans ces lieux que les exactions commises sont de plus graves et personne en Libye ne semble être en mesure de faire une estimation fiable du nombre de personnes en main de ces groupes. Beaucoup plus nombreux sont ceux restés en liberté dans différentes villes du pays. L'Organisation internationale pour les migrations estime à 800 000 personnes le nombre de clandestins actuellement en Libye. Mais les autorités libyennes parlent de plus d'un million. Tous déclarent vouloir tenter la traversée de la Méditerranée vers l'Italie.
Notez aussi dans l'actualité africaine l'investiture mardi à Nairobi d'Uhuru Kenyatta. Il a prêté serment pour un second mandat. Rappelons que le président a été réélu le 26 octobre dernier avec 98% des voix, mais le scrutin avait été boycotté par son principal concurrent, Raila Odinga. C'est aussi la prise en compte par le Conseil de sécurité de l'ONU du calendrier électoral en République démocratique du Congo avec une présidentielle fixée au 23 décembre de l'année prochaine et une recrudescence des tensions au Cameroun. 4 soldats ont été tués dans le sud-ouest, dans la zone donc anglophone du pays, à suivre dans nos journaux.
Une semaine d'actualité.
Et nous retrouvons Justine Brabant, auteure avec Leïla Minano et Anne-Laure Pinault d'une enquête qui s'intitule « Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre » publiée chez Autrement. Alors je vous ai vu vraiment sourciller, bondir, sourire, je ne sais plus quoi dire en écoutant Emmanuel Macron. Pour quelle raison?
Alors d'abord, il y a un extrait qu'on n'a pas entendu dans les sons qui ont été repris de discours d'Emmanuel Macron. Il faut se souvenir qu'il a dit aussi à Ouagadougou, à ses étudiants burkinabés, qu'il l'interrogeait sur la présence de soldats français à Ouagadougou dans le cadre de l'opération Barkhane. Il a dit, vous ne devez qu'une chose pour ces soldats français, c'est les applaudir. Ça a été reçu au Burkina Faso de manière mitigée. Pourquoi? Parce que et je ne sais pas s'il s'en souvenait pas ou si ou s'il a choisi de ne pas s'en souvenir, mais il faut savoir que le Burkina Faso, c'est intéressant concernant les crimes de l'armée française, puisque c'est le seul endroit ces dernières années où on a abouti à une condamnation d'un militaire français pour des attouchements sexuels sur des fillettes de 3 et 5 ans. Ça se passait dans la piscine d'un grand hôtel et c'était un soldat des forces spéciales françaises qui, en 2015, avait non seulement attouché ses enfants, mais en plus s'était filmé en train de le faire avec sa caméra, ce qui a permis, il me semble que c'est une des choses qui a permis à ce qu'on aboutisse à un verdict, c'est que pour une fois, on posait la question de la preuve tout à l'heure, pour une fois, c'était assez irréfutable. Donc il a été condamné tout à fait, à 2 ans de prison. Probablement, il n'ira pas derrière les barreaux puisqu'il y a un an avec sursis et puis sa peine va être aménagée. Mais donc dire dans ce contexte, vous ne devez faire qu'une chose pour les soldats français et les applaudir, c'est, il me semble, pour le moins maladroit. Et puis c'est la question de cette étudiante qui visait tout simplement à voir peut-être le détail des ressorts de pourquoi est-ce qu'on garde une force Barkhane sur place me paraissait pas non plus extraordinairement compliqué. Et puis il a dit une deuxième chose qui m'a un peu fait bondir, c'est arrêter avec ce discours qui dit que le problème c'est l'autre. Justement, il va là-bas, il parle droit de l'homme. Mon ami, arrêtez avec ce discours qui dit que le problème c'est l'autre. Si le problème ça n'était pas l'autre, il aurait pu se souvenir des problèmes avec mille guillemets qu'avaient rencontré les soldats français sur place. D'une certaine manière, nous c'est ce qu'on essaye de faire dans notre livre. Moi j'ai travaillé quelques années sur le Congo, vous le disiez, sur les groupes armés qu'on accuse souvent d'être des pilleurs, des violeurs, etc. C'est important de le faire, de rappeler et d'enquêter lorsque c'est possible sur ces crimes. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'est ne pas considérer que le problème c'était toujours l'autre, ne pas considérer que les violeurs c'était toujours les miliciens congolais, centrafricains ou que sais-je, mais que parfois ça se trouvait aussi dans nos rangs, même si ça obéit bien sûr à des logiques différentes, mais le problème parfois c'est nous aussi.
Et même si ça concerne un nombre limité, heureusement, de tout soldats, il faut le rappeler sur tous les soldats déployés, soldats français déployés. Alors il y a un autre grand sujet qui lui aussi est un vieux sujet, ce sont les casques bleus. Vous notez dans ce livre, Justine, que 31 pays contributeurs de troupes sur les 193 qui constituent l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui auraient compté dans leur rang des casques bleus impliqués dans des cas étayés et d'abus sexuels entre 2010 et 2013. 31 pays.
Oui. C'est gigantesque et ça provoque. Enfin, c'est gigantesque et en même temps, vu le nombre de soldats déployés, je ne sais pas ce qui est grand ou pas concernant ce type de crime. À partir de quel moment, de toute façon, ce serait trop. Mais très souvent, c'est assez remarquable quand on parle de notre livre, les gens sursautent le plus quand on leur dit que les casques bleus aussi violent.
Pourtant, c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire. C'est
notamment en RDC.
Notamment en RDC, c'est relativement systématique. Donc là, cette enquête-là, sur les Nations Unies, qu'on a menée dans le livre, elle visait à essayer de comprendre pourquoi, encore une fois, toutes ces accusations n'aboutissaient jamais à des procès, n'aboutissaient jamais à des condamnations. Et là,
L'ONU a fait des progrès en matière d'enquête, mais ça reste vraiment assez opaque. Et ça se heurte à chaque fois à la logique, comme dans d'autres dossiers, à la logique des États.
Exactement. D'abord, au sein de l'ONU, c'est des enquêtes théoriquement internes sont menées, mais les enquêteurs sont pas toujours extrêmement formés pour ça. Les quelques-uns qui ont essayé de mettre un peu de zèle dans leurs questions ont été écartés. On interroge un ancien enquêteur des Nations Unies qui s'appelle Peter Gallo,
qui dit qu'il connaît en connaissance de cause, sans doute, les Nations Unies sabotent délibérément leurs investigations.
C'est ce qu'il raconte, effectivement, dans notre livre. Et puis après, même une fois que ces enquêtes aboutissent, en dernier ressort, c'est aux pays contributeurs de troupes de prendre des sanctions contre leurs soldats, et on peut imaginer qu'ils ont tout un tas de raisons de ne pas le faire.
Merci Justine Brabant. Il faut lire donc Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre. C'est une enquête publiée chez Autrement. Merci.
Merci à vous.
Allez Justine, restons en Afrique et terminons notre voyage en Mauritanie dont c'était la fête nationale mardi. Mauritanie qui a désormais un nouvel hymne national qui ne fait pas l'unanimité. Marie-Pierre Olfan.
Ces quelques notes composées par un Français d'origine russe appartiennent désormais au passé. Exit l'ancien hymne mauritanien sans paroles, sur lequel depuis une vingtaine d'années le texte d'un poète mauritanien avait été greffé. Un texte très religieux et peu consensuel. Le nouvel hymne adopté glorifie l'appartenance à la nation mauritanienne. Mais il fait déjà l'objet de critiques. Certains regrettent qu'il soit l'œuvre d'un compositeur étranger, un Égyptien, et qu'il ne reflète pas dans les mots et la musique la diversité des communautés mauritaniennes. Ibrahim Assar, président du parti AJDMR.
Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est loin de tout ce qui pourrait aller dans le sens d'une cohabitation sérieuse. Toutes les populations se retrouveraient dans le cadre d'un hymne galvanisateur, de vraiment un discours très plat, c'est loin de toutes nos cultures à nous ici à Mauritanie.
Bilal Hamza fait partie de la quarantaine d'intellectuels et poètes qui ont travaillé sur le texte de l'hymne. Il répond aux sceptiques.
Si certaines personnes ne se reconnaissent pas dans cet hymne, c'est parce qu'elles ne se sont pas cherchées dans l'hymne lui-même. Si on se cherche en tant qu'Africain, en tant que musulman, on se retrouve effectivement dans cet hymne. Mais si on se cherche en tant qu'identité différenciée, en tant qu'individu ou en tant que groupe social séparé, on ne va pas se retrouver parce qu'un hymne national, ce n'est pas fait pour ça.
Un hymne qui sera chanté en arabe, la langue officielle mauritanienne.
Et c'est ainsi, avec le nouvel hymne de la Mauritanie, que s'achève ce numéro d'une semaine d'actualité, réalisé comme les précédents, évidemment par Vanessa Rowanski. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, et nous parlerons d'un des grands esprits français, Montaigne, avec notre invitée Arlette Joanna. Demain dimanche, je vous conseille ce rendez-vous, 17h10, heure de Paris, et 15h10, temps universel pour l'Afrique. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.